en raison des états d'âme, pas en sens tout complet, mais parce que vous avez reçu l'Esprit Saint.
Et la conclusion, si comme Paul, hein, si vous avez reçu l'Esprit, que l'Esprit vous fasse vivre. Et donc, cet Esprit nous pousse à nous revêtir des mêmes sentiments que Jésus, hein, puisque Jésus est notre frère. C'est quand même fou, hein. Dieu se fait homme et nous sommes destinés à devenir Dieu. Souvent, je vous avais cité cette parole de saint Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La deuxième lettre de saint Pierre, le prologue de la deuxième lettre de saint Pierre, il nous a fait participants de la nature divine. Donc, je vous dis, être participant de la nature divine, ce ne sont pas des états d'âme, mais c'est de vivre sous la mouvance de cet esprit de Dieu. Et que nous donne l'esprit de Dieu? On pourrait dire l'état d'esprit de Dieu lui-même, sa façon de voir, de comprendre, d'aimer, de saisir les choses et de se comporter. Comme Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Voilà, en quelque sorte, ce que va développer, si nous nous laissons faire, l'esprit de Dieu en nous. Et donc, je reviens une fois de plus sur le truc, et non pas des états d'âme, pas des orgasmes à l'état gazeux auxquels on aurait droit parce qu'on s'est bien conduit. C'est pas de cet ordre-là. Or, souvent, on voit dans des mouvements charismatiques, si c'est mal compris, ça dérive sur des choses de cet ordre-là. Mais donc, vous êtes tous des êtres spirituels. Nous sommes tous des êtres spirituels, puisque nous avons reçu l'Esprit au baptême, et nous y viendrons cet après-midi à travers les sacrements de l'initiation chrétienne. Alors donc, ce que je voudrais développer ce matin, c'est ce que nous donne l'Esprit. Il nous donne ce qu'est Dieu, et Dieu ne peut pas faire quelque chose qui soit contraire à ce qu'il est. Or, comme il est infiniment bon, il ne peut donner que des choses infiniment bonnes. Et vous vous souvenez de ce que dit Jésus, si un gamin demande un œuf, on ne lui donne pas un scorpion, même si le gamin est un morpion. Donc, et la conclusion de Jésus, enfin, la chute de son intervention, c'est ben, votre Père vous donne ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Le même Esprit que lui, quoi, qui vous divinise. Or, j'ai été toujours frappé au Carmel, toujours chez Jean de la Croix, dans le Cantique spirituel, justement, quand la personne est lui-même est transformée en Dieu et divinisée, il dit dans son Cantique spirituel, « Allons-nous voir dans votre beauté, et votre beauté sera la mienne. » Et vous verrez votre beauté en ma beauté que vous m'avez donnée. Et donc, ça signifie qu'une personne qui accepte tout ce que l'Esprit Saint veut faire en elle, atteint à une égalité de beauté avec Dieu. Et non pas, voilà le terme que nous serait plus facilement monté aux lèvres, hein, bonté. Et vous vous souvenez du livre de la Genèse, le premier récit, en une semaine. Et tous les jours, Dieu vit que cela était bon. Or, figurez-vous que du temps bien avant Jésus, il y avait une diaspora juive qui était très étendue, surtout le bassin méditerranéen, et les rabbins disaient dans les synagogues, ils sont incapables de lire les Écritures parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Alors, on va traduire l'hébreu dans la langue courante, qui était le grec. Et on a traduit ça, la légende veut qu'il y ait eu 70 traducteurs, c'est ce qu'on appelle la Bible des Septante. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible des Septante? Il est employé un mot grec qui veut dire à la fois « beau et bon ». Et on pourrait dire tout aussi bien, et nous le comprenons parfaitement, et Dieu vit que cela était beau. Et c'est vrai que lorsqu'on voit la création, elle est belle. Le mot qui nous vient spontanément aux lèvres, c'est pas, on voit que cela est bon, on dit c'est beau. Et voilà. Et alors, donc, Dieu ne peut donner dans la création que sa propre beauté. C'est qu'une fois, là, quand je prêchais en Martinique, j'étais à la recherche toujours de papillons. Et il y a des mygales, en veux-tu, en voilà. Quoi. On en voit une dizaine par jour, au moins. Et les bénédictines me disaient, elles nous tombent même sur le scapulaire, elles traversent le cœur quand on est en train. Et alors, j'avais photographié la mygale en question. Et alors, je leur avais fait des images signées avec le papillon, là, qui est si beau. Là, et en citant, quoi, qu'il est passé en laissant une ombre de sa beauté. Je dis, mais après j'aurais fait une pour rigoler avec la mygale. Je dis, mais ce jour-là, il était de mauvais poil, parce que c'est complètement hirsute quand même. Hein. Alors voilà, donc Dieu ne peut donner dans la création entière est une ombre de sa beauté. Mais ce qu'il a créé de plus beau, évidemment, c'est cet être Oui, vous vous souvenez, dans le livre donc, de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon, donc Dieu, c'est dans ce qui nous intéresse, et Dieu vit que cela était beau, était beau, était beau, et il arrive à l'homme, et il vit que cela était très beau. C'est-à-dire que là, il s'est entièrement donné à travers la création humaine, puisque lui-même s'incarne, sa parole s'incarne, et donc la parole de Dieu aussi est l'égalité de beauté avec lui, ou l'égalité de lumière aussi, on pourrait dire. C'est ce qu'on dit dans le Je crois en Dieu, lumière n'est de la lumière, vrai Dieu n'est du vrai Dieu. Donc, c'est ce qu'il a voulu donner à l'homme, hein, quelque chose qui soit de l'ordre de sa propre beauté, et même pas de l'ordre, qui soit vraiment sa propre beauté. Et ça dépasse largement, vous voyez, ça va tendre vers une beauté que donne l'esprit, on s'en doute, une beauté spirituelle, et qui dépasse largement la beauté physique, qui souvent, même si elle est là, elle n'est que transitoire, ça dure que quelques années. Mais bon, voilà, c'est une beauté éternelle après. Je pense que dans les corps de gloire, en plus, se joint une beauté physique. Prenez par exemple la Vierge, l'apparition à Bernadette, la Vierge apparaît d'une beauté extraordinaire. Donc tout ce que nous voyons, il y a un reflet de la beauté de Dieu, mais si nous en revenons à la nature, qui est donc reflet de Dieu, on s'aperçoit aussi que la nature, à l'heure actuelle, est dans un état de violence terrible, même sans l'intervention de l'homme. Hein. Les animaux se bouffent les uns les autres. Et même, je vois la télé une fois par an, peut-être. C'était un documentaire animalier, on voyait un vieux lion qui avait de la peine à se traîner, et les hyènes venaient pour bouffer le lion. Quoi.
Encore sur pied.
Encore sur pied, mais il avait encore assez de force, et c'est l'inverse, c'est la bouffe. Donc voilà, hein, il y a malgré tout de la violence, et cette violence nous la connaissons parce qu'elle est en nous, on est pécheurs. Et... Seulement voilà, il y a eu la perte du beau. La perte du beau, c'est le deuxième récit de la création, c'est l'histoire d'Adam et Ève, Genèse 2-3. L'autre, le premier récit, c'est Genèse 1, premier chapitre, qui est très court, mais c'est très court parce que c'est très concis. Un premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Et en fait, j'ouvre une parenthèse, là, ça peut aider, parce que souvent, nous sommes, nous, chrétiens, attaqués là-dessus, mais on dit, mais quand même, la création en une semaine, il ne faut pas blaguer. Alors pourquoi le récit a été transcrit en disant que cela se déroulant sur une semaine? Parce que le septième jour est consacré à Dieu, et Dieu se reposa. Donc on doit rendre un culte à Dieu le septième jour. Ce qui veut dire que, en fait, ce texte est un texte liturgique, premier récit. Et que toute la création tout entière, ça c'est très beau, hein, l'expression en une semaine est donc symbolique, qui veut dire qu'il y a un temps qui est dû à Dieu, et non pas à nos activités, et que ce temps qui est dû à Dieu s'inclut, c'est plutôt, tout ça c'est la clé de voûte de tout ce qui précède, et qui est déjà culte rendu à Dieu. Et on pourrait dire que la création tout entière est une immense cathédrale, dans le fond, qui rend gloire à Dieu. La voûte étoilée, c'est plus que la voûte d'une cathédrale. Et c'est lui qui l'a faite, et qui le tient de sa parole puissante, comme dirait le prologue de l'Épître aux Hébreux. Et du reste, ce texte a été écrit pour le temple de Jérusalem, au retour de la déportation à Babylone. Et ils ont été déportés avec Nabucodonosor. Et donc, après... Je pense qu'enfin politique et enfin stratège, il est plutôt que de nous casser les pieds ici à Babylone, pourtant qu'ils retournent à Jérusalem, voilà, on leur permet de rendre le culte à leur Dieu et qu'ils nous foutent la paix, et comme ça, bon, ils nous donneront les produits de ce qu'ils ont gagné. Et donc, ils rebâtissent le temple et il faut recréer ou créer toute la liturgie du temple. Et dans cette liturgie, il y a ce premier récit de la Genèse, qui n'est que de 5 siècles avant Jésus. C'est un récit très récent. Alors que l'autre, on retrouve des supports mythologiques qui sont très anciens, de la Babylone ancienne, qui ont 2000 ans d'âge, quoi, et qu'ils ont retranscrit, un peu inspiré par l'esprit, dans l'histoire d'Adam et Ève. Mais ce que nous voyons, c'est que, de façon symbolique, il y a un personnage qui apparaît, sous forme d'un serpent, et que ce serpent pousse l'homme et la femme à ne pas faire confiance à Dieu. Et dans le cadre qui nous intéresse, de ne pas faire confiance à celui qui leur donne sa propre beauté divine. Et à ce moment-là, l'homme et la femme goûtent de ce fruit où ils apprécient ce qui est bon ou mauvais pour eux. Au départ, c'est agréable, mais ben, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Et alors, c'est quoi cette nudité, hein? C'est pas des histoires de slip petit bateau qu'ils auraient perdu. C'est vraiment la nudité, c'est que l'homme, ben, une fois qu'il n'est plus recouvert de la beauté de Dieu, ben, il s'aperçoit de sa fragilité. Et de quoi essaye-t-on de se revêtir lorsqu'on n'est plus revêtu de la beauté divine ? Eh bien, en vêtements d'urgence, on se recouvre de nos péchés. Et oui, parce qu'on est fragile, on a peur que les autres nous prennent pour des andouilles. Parce qu'avant, celui qui fait confiance en Dieu, qu'on le prenne pour un gland, il s'en fout. Hein. Il est l'ami de Dieu. Et idéalement, s'il se laisse rejoindre par la beauté de Dieu, il arrive à l'égalité de beauté avec lui. Alors voyez-vous, ce qui se passait avant la chute, c'est qu'en fait, leur fragilité ne la voyait pas parce qu'ils étaient revêtus ben, de la beauté de Dieu, de l'esprit. Et donc le véritable vêtement de l'humanité, ce n'est pas des fringues, c'est la vêture de l'esprit. Et si vous prenez la Vierge Marie, elle est prise sous l'ombre de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons le voir, puisque le texte, c'est la transfiguration dans Saint Marc. Voilà, même les apôtres vont être pris sous cette ombre lumineuse. Et cette ombre lumineuse aussi, on pourrait dire, c'est le vêtement baptismal. C'est une ombre spirituelle. Alors donc, quand l'homme, dans le fond, la leçon du deuxième récit de la création, Genèse 2-3, c'est que l'homme, lorsque l'homme se dévait de l'esprit, de Dieu qui le protège, à ce moment-là, eh bien, il fait le constat de sa nudité, c'est-à-dire de sa fragilité. Et après, eh bien, il essaye de se revêtir vainement de tout ce qu'il peut. Écoutez, c'est facile, hein, c'est une transcription quasiment littérale de ce que nous vivons à l'heure actuelle. On refuse Dieu, alors on va courir vers des tas de choses qui ne nous procurent pas le bonheur. On est toujours un rassasié parce que la seule chose qui puisse nous rassasier, c'est quelque chose qui est sans limite, c'est le divin. Et quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau », ben, sous le poids du fardeau de tout ce dont vous essayez de vous revêtir dans le fond, hein, qu'il soit des idées, des conceptions, des péchés, faites tout ça, ben. Ça devient un poids insupportable. Et quand Jésus dit « Je suis venu pour que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance », il veut nous décharger de tout ce poids, de tout ce fatras que nous portons et qui ne peut pas nous revêtir dignement, dans le fond. Il n'y a que lui qui peut nous revêtir dignement de lui-même. Mais c'est immatériel, c'est spirituel. Donc acceptez ce que vous disiez, puisque nous sommes spirituels, que nous le devenions authentiquement, que nous nous laissions mouvoir par l'esprit, et nous retrouverons aussi cette beauté originale. Ce que je vous disais hier à propos du démon, de Lucifer, c'est dans Isaïe 14, 11, 12, hein, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui te levais au matin plein de beauté? Et comme la beauté, donc, c'est pas quelque chose d'autonome qu'on peut acquérir par soi, si on n'est pas plongé en Dieu, ben, cette beauté disparaît ipso facto, et comme c'est un pur esprit, ben, voilà, il a perdu toute sa beauté. Alors, il peut donner une illusion du beau, parce que il est dans le mensonge, hein. Il peut y avoir des beautés aguicheuses, mais ces beautés aguicheuses, puis il y a des méfaits qui y sont liés. Ce qui fait que la beauté qui est refermée sur elle-même, comme Lucifer, ben, se transforme ipso facto en ténèbres. Et combien nous récupérons de gens qui ont, à l'heure actuelle, qui ont erré dans le tas de trucs. Puis parfois ils descendent si bas qu'ils n'en peuvent plus, alors on récupère des gens en miettes. complètement démolies. Il faut leur donner cette force intérieure de se retourner vers celui qui est beau et qui leur donne dans son esprit de beauté et qui les fait progressivement sortir de leurs ténèbres. Ce qui fait qu'une beauté, ce que l'on croit être une beauté autonome, peut se transforme donc en ténèbres et peut devenir source de désespoir. Et vous voyez, là aussi, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, le monde contemporain, c'est ça. L'homme est poussé au désespoir. Dans ce que je vous disais par rapport au baptême et à l'esprit, c'est que malgré tout, quelle que soit la personne humaine, même en étant la plus pécheresse, Dieu déjà le maintient dans l'existence, une preuve de sa bonté, et en même temps, il y a toujours dans la personne même la plus perverse un point qui, au centre d'elle-même, qui est un point lumineux et très pur. Un point qui est vierge, si on peut s'exprimer ainsi. Et ce que désire le Seigneur, en fait, c'est nous redonner que nous devenions, on l'exprimait hier à travers Saint Séraphin de Sarov, hein, ou d'autres saints, elle a joué au Carmel, Thérèse d'Avila aussi, s'il lui est arrivé de devenir lumineuse. Ouais, c'est uniquement par pédagogie pour les autres, mais que nous soyons tous transformés en êtres de lumière. Et donc, transformés en êtres de lumière, nous retrouvons la beauté de l'âme, qui est la véritable beauté de l'âme, c'est d'avoir la forme et la beauté de Dieu. Du reste, le mot forme, ça vient de formosa en latin, qui veut dire beau. Et alors, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir donc le texte dans Saint Marc de la Transfiguration, où ce Jésus qu'ils voient identique à eux, il a un corps comme le leur, et bien pour la seule fois dans son existence, il va leur apparaître dans son resplendissement, sa beauté divine, ce qui les effraie complètement. Donc, comme le disait dans l'église d'Orient Saint Grégoire Palamas, il avait enfoui sous un corps de ténèbres identique au nôtre sa corporéité lumineuse, sa corporéité divine. Et donc il nous rend, il leur montre véritablement ce qu'il est, vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Et nous, nous sommes véritablement hommes de l'espèce humaine, mais nous sommes appelés à redevenir Dieu par participation. Ce qui est à dire que ce qui se passe là en Jésus, ce n'est pas simplement pour Jésus, mais c'est aussi pour nous, parce que nous sommes appelés, nous aussi, je vous avais évoqué le mot hier soir, à une existence qui soit transfigurée. Alors, ça nous pose question par rapport à ce que nous vivons souvent au jour le jour, où très souvent, le monde qui nous entoure est tellement oppressant et exigeant que nous oublions parfois cette vocation lumineuse qui est la nôtre. Et plus nous laisserons l'esprit agir en nous, plus notre comportement, pas besoin de chercher des mots, etc., plus notre façon d'être sera guidée par cette lumière, par cette beauté de Dieu, et plus notre comportement, on pourra dire, sera beau en tout ce que nous avons à vivre. Voyez-vous, lorsque nous accompagnons des gens, bien souvent, il faut leur redonner confiance. Parfois, la personne arrive en disant, ben, je suis moche, je fais ceci, je fais cela, là. Fous-moi la paix, Dieu t'aime. Il y a en toi déjà la propre beauté de Dieu. Laisse cette beauté t'envahir et ne regarde pas, c'est le démon qui nous pousse toujours à regarder vers nos ténèbres. Hein? C'est là où du reste se trouve, on pourrait dire, la structure même de ce vers quoi il veut nous entraîner. la structure du péché. En tout péché, bon, il y a les sept péchés capitaux, ça se présente sous sept formes, mais elles ont toute cette chose invariante au niveau du comportemental, la façon dont ça procède en nous, c'est que le démon nous replie toujours sur nous-mêmes. Si on est replié sur nous-mêmes, on ne regarde pas vers la beauté de Dieu. Si nous regardons vers la beauté de Dieu, il ne peut pas nous aborder parce qu'il est ténèbre et qu'il craint la beauté de Dieu et la pureté de Dieu. Voilà pourquoi il craint tant la Vierge Marie. Donc, en tout péché que nous commettons, et nous sommes tous pécheurs, je dis souvent en rigolant, il nous fait toujours percevoir qu'on a bouffé la soupe sans nous. Alors, c'est la faute des autres, c'est ma faute, c'est... Alors bon, ben voilà, c'est la gourmandise, la fornication, faut que je trouve mon petit bonheur, etc., etc., quoi, hein, et... Alors bon, il y a des péchés les moins graves qui touchent évidemment l'être de chair, qui peut être tyrannique, la gourmandise, la fornication, c'est des choses que, voilà, des pulsions. Et après, il y a des trucs qui sont raisonnés, vous comprenez, ce qui touche à la vanité, ce qui touche à l'orgueil, ce qui touche à l'avarice, c'est des choses beaucoup plus profondes, parce que ça fait appel non plus à des impulsions, mais ça fait appel à tout un raisonnement intérieur, qui en lui-même est pervers. Mais chaque fois que nous menons ces raisonnements ou ces choses-là, nous ne regardons plus vers Dieu. Ce que je dis souvent aux gens, le combat spirituel, ça consiste essentiellement à regarder vers Dieu. Ne jamais combattre directement. On est quasiment sûr de perdre à tous les coups. Nous avons affaire à des êtres spirituels qui ne sont pas en face de nous corporellement et qui agissent en nous par des pensées. Et donc, je vous dis, là, à travers le thème qui nous intéresse, c'est qu'il nous pousse toujours à regarder vers nous-mêmes et à ne plus regarder vers celui qui nous sauve et qui nous donne sa lumière éternelle. Et en ce combat spirituel, donc, ne jamais combattre directement, bon, si je me dis, il ne faut pas que je pense à la poitrine de Suzanne, par le fait même, j'y pense. Donc, il vaut mieux que je pense à celle de Janine. Non, vous voyez, et donc, il faut... Pardon.
C'est vraiment sournois, hein.
Mais oui, mais il est sournois. Donc, vous voyez, c'est pour vous faire comprendre, à travers cet exemple, que il ne faut pas combattre une pensée par une contre-pensée. Et que le combat consiste à se jeter du côté de la lumière, à toujours se tourner vers Dieu. Et là, vous comprenez la parole de Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, le combat spirituel se situe là. C'est un retournement vers la lumière, vers la beauté de Dieu, et un détournement de nous-mêmes et de notre psychisme dans lequel agissent les forces des ténèbres. Et ça consiste, bon, je vous ai souvent cité cette parole parce qu'elle me fascine, de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité à sa prière avant de mourir, prenant en quelque sorte la place du Christ, comme Christ disant à sa prière, laisse-toi aimer. Quelles que soient les choses que tu aies faites, œuvre de péché et de misère. Et ça, je m'en fous, j'ai donné pour toi. Et si tu ne te laisses pas aimer par moi, je ne peux plus rien faire, tu es libre. Donc ne regarde pas à tes péchés, ne regarde pas à tes déficiences, mais regarde vers celui qui te sauve, moi. Et plus je regarde vers lui, le reste, plus je l'aime. Plus je l'aime, plus il peut me changer, et plus il peut me donner sa propre beauté. Hein, ce que je vous citais du psaume 33, verset 6, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et hier soir, je commençais à aborder le thème en vous disant, ben, notre âme est comme un miroir, si elle regarde vers la lumière, elle devient lumineuse. Et donc, tout notre être, progressivement, va être envahi par la diffusion de cette lumière de l'amour de Dieu. Et si je regarde ailleurs, comme disait Grégoire de Nice, vers le serpent des origines, à ce moment-là, progressivement, tout va devenir ténébreux en moi. Donc, la transfiguration, ça effraie les apôtres, mais c'est notre avenir. Et au paradis, nous serons tous transfigurés. Nous serons semblables à lui. Prenez la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 3:2. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc nous le verrons, nous serons semblables à lui, nous serons divinisés. Et voyant par conséquent toute la profondeur de ses sentiments divins. C'est pas foutu de notre poire. Hein. Il veut vraiment nous donner ce qu'il est. Bon, là, dans mon texte, j'avais marqué comme titre « L'incarnation de la lumière ». C'est un titre que j'avais trouvé dans une revue copte. Parce qu'à un moment, j'allais au Carmel de Limoges, et puis, fréquentant le Carmel de Limoges, il y avait un couple dont lui était diacre de l'église copte, et prof d'égyptologie. Et alors, on voit tout ce qui se passe en Égypte. Ils ont fait une revue artistique. Et donc, il y avait un numéro qui portait sur les icônes coptes, qui ne sont pas tout à fait comme les icônes orthodoxes. Et le titre, c'était « L'incarnation de la lumière ». Il est lumière née de la lumière, et quand il prend notre condition, donc on le comprend à travers la transfiguration de ce jour, eh bien voilà, c'est vraiment la lumière éternelle, ce qui donne le sens, la beauté, la bonté du monde qui prend la condition humaine. Et si vous prenez le début de l'évangile de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Voilà. Et donc c'est cette lumière sur laquelle nous sommes greffés le jour du baptême, et qui est la beauté absolue. Alors, si l'on retrace toute la vie de la lumière incarnée, la vie de Jésus, donc les ténèbres ne peuvent pas l'atteindre. Et nous aussi, si on regarde vers lui, les ténèbres ne peuvent pas nous atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on va être assaillis par les ténèbres, parce qu'elles ont moins de qualité, c'est qu'elles ne sont pas feignantes. Mais bon, elles seraient feignantes, mais la haine en elles est telle par rapport au Verbe, par rapport à Dieu, qu'elles font tout pour essayer de nous perdre de façon à faire mal à Dieu. Et donc les ténèbres ne peuvent pas atteindre Jésus, ne peuvent pas atteindre la lumière, mais pourtant, au moment de la Passion, si vous prenez par exemple les textes concernant Gethsémani, il commença à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici éveillés. » C'est-à-dire que les ténèbres croient avaler Jésus, engloutir Jésus, mais en fait il fait éclater la ténèbre, et c'est ce qu'on dit, les enfers s'ouvrent, parce que cette lumière de vie, cette lumière d'amour ne peut pas contenir le chaos, la déchéance. Et donc il se laisse apparemment engloutir par la ténèbre, pour dans le fond la faire exploser, et nous redonner au monde toute la lumière. Oui, il y a des textes anciens qui disent qu'à ce moment-là, Adam et Ève le voient arriver en enfer. Ils entendent les pas de Jésus. Il les prend par la main pour les en faire sortir. C'est des textes allégoriques comme ça, mais qui font comprendre quoi, le sens même. Donc, voyez-vous, Jésus nous redonne la lumière et il nous appelle dans l'avenir et dès maintenant à le laisser agir en nous par son esprit pour petit à petit nous transfigurer, nous donner la lumière. On peut employer aussi le terme de sainteté. Et ce que je vous disais de Jean de la Croix, allons-nous voir en ta bonté au mont ou à la colline d'où l'eau pure vient jaillir et pénétrons plus avant dans l'épaisseur. Ça, c'est le poème. Et le commentaire, Cela veut dire faisons en sorte que par le moyen de cet exercice d'amour, nous venions à nous voir en ta beauté. C'est-à-dire que nous soyons semblables en beauté et que ta beauté soit de telle manière que l'un regardant l'autre, il te semble en ta beauté et soit et voit en ta beauté ce qui sera en me transformant en ta beauté. Vous voyez ce que je vous disais, il y a tout ce jeu, mais qui... Bon, peu importe, on ne va pas retenir toute la démonstration, mais vous voyez, il veut nous entraîner dans ce que nous... Voilà, nous donner ce qu'il est vraiment et qui est le beau absolu. Et ainsi je te verrai en ta beauté, et tu me verras pareillement en ta beauté, et tu te verras en moi en ta beauté, et je me verrai moi-même en toi en ta beauté. Et ainsi, qu'en ta beauté, je paraisse un autre toi-même, et que tu sembles un autre moi-même en ta beauté, et que ma beauté soit la tienne, et ta beauté soit la mienne, et je serai toi-même en ta beauté, et tu seras moi-même en ta beauté, parce que ta beauté même sera la mienne. Voilà, bon, c'est un poète, hein, et vous voyez, tout est tissé, quoi. Nous ne formons qu'un avec lui, hein, et ben, voilà, c'est notre destinée. D'où l'enjeu de nous laisser faire par lui. Et rajoute Jean de la Croix, c'est l'adoption des enfants de Dieu, qui diront avec vérité, comme le Fils éternel à son Père, dans Saint Jean, tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi. Jean 7, 10. Souvent, voyez-vous, nous avons du mal, nous ne pensons pas, il ne s'agit pas de décortiquer ces choses, mais ce qu'il veut faire de nous, si nous acceptons librement qu'il agisse en nous, hein, c'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous sanctifie. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on ne gesticule pas trop, quoi. Si on veut habiller un gamin, si gesticule sans arrêt, on ne peut pas. Mais c'est un peu pareil, il veut nous revêtir de sa beauté, mais on est toujours en train de gesticuler, on a toujours de bons prétextes. Donc il peut pas. Alors, hein, c'est ça, laisse-toi aimer, même si tu as fait des péchés, tout ça, je m'en fous, mais laisse-toi aimer. Hein, que je te donne ma propre beauté, ma propre bonté, tout ce que je suis. Hein, pensez tout simplement au Notre Père. Ben c'est quand même fou que celui qui tient l'univers de sa parole puissante soit en même temps notre Père. Hein, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas des façons de s'exprimer, c'est une réalité. Et dans le psaume 81, comme le Tarn, psaume 81, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Donc il y a du divin en l'homme. Et le démon voudrait nous faire croire qu'on ne sommes que ténèbres. Comme lui. Et cela nous pousse vers un domaine tout à fait inattendu, qui est celui de la 16. Parce que souvent, nous chrétiens, surtout en ce temps de carême, quand nous pensons à 16, nous avons parfois des idées un peu fausses et légèrement perverties. À savoir, la suivante, plus je me fais mal, plus ça fera plaisir au bon Dieu. Auquel cas, s'il nous a créés et qu'il veut qu'on se fasse mal, c'est un Dieu qui est pervers. Donc l'idée est fausse. Pourtant, à 16, il y a. Mais alors, une fois que je devais faire une conférence là-dessus, je suis allé voir quelle était l'origine du mot à 16. Et c'est un mot qui a été récupéré par les chrétiens et qui est un mot profane. Et c'est l'effort que fait un artiste pour atteindre à la beauté. Vous voyez, je ne peux pas faire une œuvre belle sans que cela me demande un effort. Peut-être que faire des taches de peinture sur une toile, c'est facile. Mais faire une peinture belle, a fortiori, et plus encore en 3D, une sculpture, va demander un gros effort. Et cet effort, pourquoi ? Pour atteindre à une œuvre belle. Et donc le véritable sens de l'ascèse, c'est l'effort que je fais pour atteindre au beau, et non pas pour me faire mal. Et nous le connaissons parfaitement, parce que même la personne la plus incroyante est incapable de s'astreindre à une ascèse pour diverses choses. Vous comprenez, pour des soins esthétiques, on est capable de rentrer dans les régimes alimentaires les plus sévères, de comprimer le porte-monnaie pour de la chirurgie esthétique, etc., etc. C'est authentiquement une ascèse pour atteindre, dans le cas présent, à ce qu'on espère, une beauté physique. Pour les hommes, ça peut se transcrire la réalisation d'une œuvre physique. Il est certain que si je veux faire une course en montagne qui est difficile, il faut que je m'entraîne. Il faut non plus que je m'astreigne à une nourriture qui me nourrisse mais qui ne m'engourdisse pas, etc., etc. Donc là aussi, il y aura une ascèse. Mais pour atteindre au beau, pour atteindre à avoir fait cette voie, avoir fait ce sommet, etc. Donc voyez, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature humaine, ce dépassement pour atteindre au beau. Mais c'est des beaux relatifs, le beau absolu, c'est Dieu. Et qui plus est, il va nous aider à cette œuvre de beauté en essayant de nous libérer de nous-mêmes. Et c'est là qu'intervient, entre autres, la réalisation du baptême. Le baptême de plein pied nous fait rentrer dans ce paysage ascétique. Et je vous dis, c'est surtout lui qui dégage, qui chasse nos ténèbres. Et nous n'aimons pas, parce qu'on est tellement familiarisé avec nos ténèbres intérieures. Et ça fait souffrir. Tout arrachement fait souffrir. Je vous dis, comme on est capable de le faire pour des choses naturelles, qui ne font que satisfaire souvent notre ego, pour des raisons esthétiques ou pour des raisons d'exploit qui permettent d'avoir une bonne image de marque de soi, c'est très égotique. Eh bien, là, c'est quelque chose qui véritablement nous fait sortir de nous-mêmes pour aller vers la lumière et devenir progressivement lumière, devenir progressivement beauté. Et là, vous voyez, puisque j'avais commencé à toucher le problème, le baptême, hein, on le reçoit, on n'est pas conscient sur les fonts baptismaux, mais après, ça va demander toute une existence pour que cette grâce baptismale, qui est une grâce de dépouillement de nous-mêmes pour nous laisser envahir par la lumière. Et quand le baptême est totalement réalisé en nous, dans sa plénitude, c'est exactement ce que dit Jean de la Croix, on atteint l'égalité de beauté. En d'autres termes, on pourrait dire nous revenons à nouveau, on est réintroduit en quelque sorte, malgré les vicissitudes d'ici-bas, dans un paysage intérieur qui est paradisiaque. Nous menons une vie divine. Oui, tout en étant sans état d'âme. Voilà, je suis un peu plus court qu'hier soir, mais est-ce que vous avez compris le principe? Donc si je résume les deux interventions, je voulais vous mettre en garde contre ces spiritualités à l'eau de rose qu'on trouve souvent, et qui pour finir nous ancrent dans notre être sensible, mais qui ne peuvent pas nous donner la saveur forte de Dieu, parce que nous sommes faits pour la saveur forte de Dieu. Donc ça nous déroute, et Dieu ne veut pas nous donner moins que lui-même, penser à l'Eucharistie. Et donc, il veut voir ce qu'il est, lui, en nous, ce pourquoi il nous a voulu de toute éternité. Et ce que nous aborderons cet après-midi, c'est que tout cela, on commence déjà à le saisir par le baptême, et bien il nous l'accorde par les sacrements, mais les sacrements en nous ne font rien, ne produisent rien, si nous n'acceptons pas que Dieu agisse en nous. Il ne peut pas nous forcer, il nous a laissés libres. Ça va demander un peu de notre part, et après beaucoup de la sienne, et qui n'attend que ça, hein, qu'on lui dise oui, pour qu'il nous transforme. Et nous sommes gagnants sur toute la ligne, puisqu'il nous donne ce qu'il est lui-même, ce pourquoi il nous a voulu de toute éternité, et à son image et à sa ressemblance, nous revenons. Et vous savez, dans la prière eucharistique, lorsque nous disons, que les prêtres disent... Dieu Saint, toute sainteté vient de toi. Aucune sainteté ne peut venir de soi-même. On ne sait pas qui est Dieu, donc il faut se laisser prendre par lui et le laisser, quel qu'en soit le prix, de nos arrachements, le laisser nous donner ce qu'il est lui-même. Et c'est ce qu'ont compris tous les saints. Et si les gens, certaines personnes sont qualifiées de saintes, c'est parce qu'elles ont accepté cette mort à elle-même, cette ascèse qui les fait mourir à elle-même, pour que Dieu soit tout en elle. Et authentiquement, à ce moment-là, nous sommes mus par l'Esprit, même si nous n'avons aucun état d'âme.